Pour cette première interview du Radio Don 2025, nous nous demandons ce matin comment écouter avec son cœur, Isabelle Duché.
Écouter, ça paraît simple apparemment, mais écouter vraiment de tout son être, est-ce si facile? Pour nous guider dans cet apprentissage, nous sommes avec un spécialiste de l'écoute. Bonjour Daniel Desbois.
Bonjour.
Vous êtes psychologue clinicien et spécialiste de l'accompagnement spirituel, psycho-spirituel, pardon. Pour vous, Daniel Desbois, qu'est-ce qu'écouter véritablement?
Alors, écouter véritablement, en fait, le mot important, là, dans écouter véritablement, le mot important, c'est véritablement.
Ah.
Parce qu'en fait, si on veut véritablement écouter, il faut savoir qu'écouter, c'est aimer. C'est un acte d'amour, hein, d'écouter. Ça. Tout simplement pour l'expliquer, il suffit dans un couple qu'on ne soit pas bien, qu'il y ait des différends. On est plus apte à s'écouter. Pourquoi? Parce qu'il y a moins d'amour. Alors quand il y en a plus, c'est encore plus compliqué. Il n'y a plus d'écoute du tout. Pourtant, l'écoute, la véritable écoute, elle vient déjà, c'est annoncé par le bon Dieu. Hein, quand il dit Shema, c'est le plus grand commandement, c'est écoute. Écoute Israël.
Écoute Israël.
Écoute Israël. Parce que si le bon Dieu nous demande d'écouter, c'est parce qu'il nous donne des commandements après. C'est-à-dire, Seigneur, tu aimeras le Seigneur, le Seigneur est un, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, etc. C'est-à-dire que Dieu nous demande d'écouter parce qu'il nous aime. C'est parce qu'il nous aime, il va nous donner des commandements pour nous protéger, pour nous faire grandir, pour nous unir à lui. Donc l'écoute, c'est une union entre deux.
Oui.
Et voilà, moi, c'est ma réponse.
Écoute véritable, c'est finalement un acte d'amour. C'est
oui.
Aussi, c'est aussi un acte de courage parce que il faut accepter de faire un pas de côté quand on veut vraiment écouter véritablement, comme vous l'avez dit.
Ah oui. Parce que là, il faut laisser la place à l'autre. Dans la mesure où je piétine sur la parole de l'autre, je ne suis plus en écoute. Je suis en train d'essayer de prendre le pouvoir pour peut-être avoir raison, pour, je sais pas, le remettre en cause, pour me justifier. Il n'y a plus d'écoute, là. L'écoute, c'est apprendre à se taire.
Apprendre à se taire.
Tu ne peux pas écouter si tu ne te tais pas. C'est pas possible.
Alors justement, on dit souvent que dans l'écoute, il y a aussi des plages de silence qu'il faut laisser. Quelle place a le silence dans l'écoute?
Ah ben le silence, il est capital. Il est capital parce qu'il permet justement de laisser la place à l'autre. Déjà de se concentrer. Quand je veux me concentrer, ben je suis à l'intérieur de moi. Je fais silence. Et bien quand on est dans l'écoute, justement, le silence va permettre de laisser la place à l'autre, hein, s'effacer, pour le laisser vivre, en fait. Et c'est important parce que il y a les silences qui sont pleins et les silences qui sont vides.
Ah, c'est quoi la différence?
La différence, c'est que je peux être avec l'autre, dans le silence, sans parler. Il sait que je suis là. Quand une personne est en train de vivre intérieurement quelque chose d'important, elle a besoin de rentrer dans ses émotions même, et c'est là il faut la laisser tranquille. Et on est dans le silence tous les deux, mais on est ensemble. Ça, c'est un silence plein. Le silence vide, c'est on est côte à côte, mais on est loin l'un de l'autre, en fait. On n'est pas ensemble. Je peux écouter mon enfant sans l'écouter, mon épouse sans l'écouter. Surtout, je parle quand on est dans le silence. Hein. Je parle dans le silence, je peux l'écouter, mais être là sans être là.
Oui,
mais en ce qui concerne l'écoute, tout au moins, le silence a pour but d'être à la rencontre de l'autre. Vous savez, quand il y a, après l'Eucharistie,
oui.
après la communion, il est tellement bon d'avoir un temps de silence. Parce que c'est le moment où je vais parler à Dieu qui va m'écouter, et je vais écouter Dieu qui va me parler. Et ça, ce silence, il est précieux. Parce que Dieu est là, à l'intérieur de moi, je viens de prendre l'hostie. Ce silence est fondamental. Personnellement, quand il y a trop de musique,
oui,
moi, ça me
gênant.
Dérange.
Oui, bien sûr.
Moi, ça me gêne.
Oui.
On n'est plus dans le silence, parce que le silence implique la rupture des sens. Si je suis dans le silence pour aller à la rencontre de ce que j'attends de l'autre ou de ce que l'autre attend de moi, je ne peux pas écouter sensoriellement et être à l'intérieur de moi. C'est pas possible. On fait ou l'un ou l'autre. Si je suis dans le silence, je suis à l'écoute intérieure et pas à l'écoute extérieure. L'écoute extérieure perturbe le silence.
Oui. Et justement, Daniel Desbois, comment peut-on écouter au-delà des paroles, puisque on se tait, on est en fait finalement dans un moment de cœur à cœur, hein, avec ce silence qui est vraiment profond et qui est habité.
Oui.
Mais il faut quand même pouvoir entendre ce que l'autre a à nous dire.
Mais oui, c'est ça. C'est une disposition intérieure. Hein, quand on veut recevoir l'autre, hein, il faut se mettre en disposition intérieure, parce que là, la disposition intérieure nous permet de mettre l'autre en confiance. Il sait quand je l'écoute, il sait quand je suis là. Automatiquement, il y a la grâce qui passe. C'est sûr. Là, il y a la grâce qui passe. Donc, c'est vrai que c'est très délicat, parce que la rupture peut être très, très, très rapide, en fait. Mais c'est vraiment, c'est toujours le but, c'est de recevoir l'autre, en fait, pour le mettre en confiance. Dès l'instant où il est en confiance, il se sait écouter et il peut s'abandonner. Il peut recevoir ce que je peux lui dire. Vous voyez?
Se sentir en confiance, ça passe sans doute par une certaine posture, même une attitude corporelle, si je puis dire.
Eh bien oui, parce qu'on peut écouter aussi en regardant l'autre. Il suffit de voir qu'il est en train de s'agiter, là. Je vais avoir mon adolescent qui vient, il va me dire quelque chose, je vais l'écouter aux oreilles. Je vais voir qu'il est peut-être angoissé, qu'il a peur, qu'il ait un rythme de voix qui n'est pas habituel. C'est une manière d'écouter, de faire attention à ce qui se vit chez l'autre. Des fois, dans le silence, il y a des silences qui sont très parlants. Des silences qui sont très parlants. Et là, on est tout à fait dans le non-dit, mais le corps parle. Le corps parle. Et il parle beaucoup plus, peut-être, que les mots. Parce que des fois, une personne peut dire quelque chose et on voit intérieurement son corps traduit autre chose.
Oui.
La personne peut être en train de dire quelque chose qui est grave avec un sourire. Oui, des décalages comme ça, alors qu'elle sait que c'est grave, mais il y a quelque chose, il y a un décalage qui se fait. Et c'est vrai que la disposition intérieure dans l'écoute est fondamentale, au-delà des paroles, hein, bien sûr.
Oui, c'est fondamental. C'est fondamental.
Le timbre de la voix, même quand je vais écouter quelqu'un, que je vais lui parler, le timbre de la voix va permettre au message de passer ou de ne pas passer.
Vous auriez un exemple, Daniel Desbois?
Eh bien, quand je vais lui dire que c'est une belle personne, qu'elle a une belle âme, la manière de le dire, juste la manière de le dire, elle va le croire ou pas.
Oui.
Le timbre de la voix, l'intention qu'il y a. Vous savez, au-delà des paroles, c'est l'intention qu'il y a. Aussi bien chez l'autre que chez celui qui écoute. L'intention va être importante, parce que l'intention, c'est je veux le rencontrer. Je veux être à sa disposition, au-delà des paroles. Et là, l'autre le sait si je suis avec lui ou si je suis loin de lui,
oui,
ou d'elle.
Oui, oui. Écouter avec les cœurs, est-ce que ça nécessite d'être dans l'empathie ou dans la sincérité? Qu'est-ce qui est le mot le plus ajusté?
Ben, c'est-à-dire que l'empathie, c'est déjà c'est un dérivé de l'amour, hein, l'empathie. Parce que l'empathie, c'est se mettre à la place de l'autre pour le recevoir. Vous savez, il y a des personnes qui n'ont pas accès à ce qu'elles ressentent intérieurement. Et quand je suis dans l'empathie, véritablement, que je me mets à la place de l'autre dans une situation qu'il est en train d'évoquer, que je me mets à la place de l'autre, je peux ressentir ce que lui devrait ressentir, et peut-être il n'a pas accès. Et le fait d'être dans l'empathie va me permettre de dire quelque chose que l'autre, ou l'autre n'a pas accès, et il va se reconnaître dans ce qui va être dit. Justement parce qu'il n'a pas les mots, mais quand on lui donne les mots, si ce sont les mots que l'empathie permet de sortir, la personne se sait écouter. Et ça, ça creuse de la confiance. Ça. Parce que l'empathie, c'est essayer de ressentir ce que l'autre ressent, de comprendre avec le cœur ce que l'autre n'arrive pas à formuler. Oui, c'est vraiment se mettre à la place de l'autre, surtout sans se perdre.
Et ça veut dire qu'on peut s'autoriser à poser quelques questions
ah oui, bien sûr.
Pour faire avancer cette écoute.
Et oui, parce que quand la personne, quand je me mets à la place de l'autre, et qu'il est en train de m'expliquer une situation où je me dis, là, il devrait être en colère, et que je vois qu'il est super calme, il n'a pas accès à son émotion, et je me dis, mais en principe, là, je peux lui dire, mais je dis, en principe, dans cette situation, il devrait pas, ou le gamin, la gamine, l'adolescent, ou quoi, devrait réagir quand on lui a dit ça. Et là, la personne se sent entendue et comprise, et elle va répondre. Donc je pose des questions, je lui dis, mais est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il soit en colère là, à ce moment-là? Elle va dire, oui, mais ben, j'ai pas pu à ce moment-là, j'étais bloqué. Ça y est, là, il y a une jonction qui se fait.
Et donc l'émotion peut venir après, finalement.
Et l'émotion, il peut la reconnaître après. Mais parce que dans l'empathie, l'écoutant ressent l'émotion qu'il devrait ressentir. Il se met à la place. C'est ça l'empathie, c'est se mettre à la place de l'autre.
Oui, se mettre à la place de l'autre, d'accord.
C'est se mettre à la place de l'autre. Donc, si je me mets à la place de l'autre et que je formule quelque chose qu'il n'arrive pas à formuler, mais qu'il sait vrai, ça fait avancer.
Oui, c'est ça. Oui. Est-ce qu'il y a une posture particulière pour l'écoutant chrétien ? Spécifique, on va dire.
Ah oui. L'écoutant chrétien, déjà, dans la situation d'écoute chrétienne, on n'est pas à deux, on est à trois. Alors elle est un petit peu plus délicate parce que quand on veut vraiment être dans une écoute chrétienne, en même temps on écoute la personne qui parle et on écoute le bon Dieu, qu'est-ce qu'il voudrait bien que je lui dise à cette personne. Il y a une double écoute, parce qu'en fait, là, c'est dans l'écoute chrétienne, on va chercher qu'est-ce que la grâce veut dire à la personne. Parce que le bon Dieu sait beaucoup mieux que moi ce que j'ai à toucher dans son cœur pour la faire avancer. Donc, l'écoute chrétienne, elle est très fine, mais alors maintenant, c'est pas avec des mots qu'on peut être dans l'écoute chrétienne, c'est-à-dire on a une pratique. Et la pratique, elle ne se fait pas seulement avec l'autre en face, elle se fait quand je suis dans le cœur à cœur avec Jésus.
Oui, c'est une disposition
d'âme. C'est un cœur à cœur, voilà, le plus souvent possible. Ça sert à quoi l'oraison, l'adoration? Ça sert justement à être dans ce... à développer ce muscle du cœur à cœur, de manière à apprendre à écouter Dieu pour mieux apprendre à écouter l'autre.
D'accord. Et ça passe aussi par l'écoute de soi, non?
Eh bien oui, c'est-à-dire que comment est-ce que je peux écouter le bon Dieu si je n'arrive pas à m'écouter moi-même? Si je ne ressens pas les choses, si je n'arrive pas à donner sens à ce que je vis, comment est-ce que je peux écouter Dieu? Alors, il y a aussi la connaissance de soi, c'est toujours pareil. Ça dépend de ce que vous donnez comme définition. La connaissance de soi, soit il y a une définition psychologique, soit il y a une définition plus à connotation spirituelle. La connaissance de soi sur le plan psychologique, c'est se connaître pour savoir pour qui je suis. Tout ça, c'est un petit peu une synthèse hein, ce que je dis là.
Oui, oui.
La connaissance de soi au niveau chrétien, c'est connaître comment est-ce que je... C'est connaître le péché, en fait. C'est me reconnaître pécheur pour avoir le... Parce que quand on est pécheur, on n'est pas véritablement comme Dieu voudrait qu'on soit.
Pécheur, c'est se reconnaître aussi aimé de Dieu et sauvé par lui.
Exactement.
Ouais.
C'est se reconnaître et aimé par lui. Et donc, en même temps, dans la mesure où je suis dans cette écoute de Dieu, il est évident que la connaissance de Dieu, c'est par la connaissance de Dieu que je vais mieux me connaître.
Voilà,
en psychologie, on n'a pas besoin de ça, on n'a pas besoin du bon Dieu. Hein.
Oui, c'est ça. En tout cas, on retiendra effectivement ces notions d'écoute, ces notions de silence, silence et présence. Je vous remercie beaucoup, Daniel Desbois, de nous avoir éclairé ce matin sur cette façon d'écouter avec son cœur. Et je rappelle que vous êtes psychologue clinicien et spécialiste de l'accompagnement spirituel. Merci beaucoup.
Je vous en prie. Au revoir, Isabelle.
Au revoir,
merci.
Daniel Desbois.